Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Salut, salut les petits amis, comment allez-vous? Et bah, j'espère bien, bienvenue dans ce nouveau numéro de eTeachers, le numéro 82, qui est ma foi un bien bon numéro. Comment ça va Jeff? Comment ça va Seb?
Ça va impeccable, ouais, bon numéro 82, ouais, pourquoi pas, ouais.
Bonne année.
Oui, voilà, ça appelle au...
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Ok, j'ai compris. Oui. C'est les Jones.
Eh ouais, on peut pas tous être vieux comme toi. Ah, regarde, toi, ça fait,
ça fait
un mois que tu as un rhume, c'est terrible.
Ça va un peu mieux, là, non, la voix, non? Depuis l'épisode il y a 15 jours, non?
Un petit peu mieux, un petit peu mieux. Bon, Seb, tu vas bien?
Oui, ça va, moi j'ai pas de rhume.
T'es pas sous les orages, sous la pluie niçoise ou je ne sais quoi?
Non, tu sais, ici ça dure pas, heureusement.
Bon, et ben après ces considérations météo, je vous propose de commencer avec le sommaire. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Jeff?
Deux actus sur la robotique et un petit peu de parler de la formation. On a pas mal d'outils, en tout cas tous les trois, on va proposer quelques outils dont je ne sais pas du tout ce que c'est, donc vous aurez la surprise. Dans l'innovation et expérimentation, une petite chose, en tout cas, sur une police de caractère, vous allez voir. Continuer sur ce que l'on fait en ce moment. Je crois qu'on ne s'embête pas en ce moment, hein, on est bien pris, je vois. Et on finira par notre petite tranquillité pour parler d'autres choses, voilà. Et ben, c'est parti, messieurs.
Un bien beau programme, effectivement. On y va.
Allez, avant de commencer, quelques petits retours sur l'émission précédente. On n'en a pas trop crié sur les toits, mais on avait créé un compte Twitter de eTeachers, hein, Seb.
Tout à fait. On
nous l'avait soufflé un petit peu. Il se reconnaîtra, celui qui nous avait soufflé ça, en tout cas.
Oui,
et voilà, et finalement, il avait peut-être raison. Hein,
écoute,
parce
oui.
Parce qu'on a eu un paquet de retours, un paquet d'abonnés. Donc voilà, c'est sympa. En tout cas, continuez. On a eu donc un petit retour de Gwenaël Castel qu'on avait parlé il y a 15 jours, je crois, ouais, l'émission d'avant.
Oui.
Qui nous parlait de son potager, je crois.
Voilà.
Qui disait qu'il écoutait eTeachers dans le potager et il nous a répondu ben non, tout le monde maintenant est au courant pour mon potager. En tout cas, il a dit merci.
C'est est-ce que ça fait grossir les courgettes?
C'est ça. Et en tout cas, il dit merci pour vos émissions.
Je suis pas sûr de tenir là sur toute l'émission.
Non, on va pas tenir là-dessus, pas de problème.
Allez, après un petit retour d'Elodie. Elodie Volo qui nous dit, je crois qu'elle est au Canada, je crois, j'ai vu. Elle nous dit que les écrans, elle nous parlait, en tout cas, on avait parlé d'une discussion avec Seb sur.
Stanislas Delaine.
Tout à fait, sur un article de Stanislas Delaine et qui parlait des écrans. Et elle nous répond en tout cas que les écrans font partie de notre vie. Que ce n'est pas leur présence, mais leur contenu qui importe, c'est ce qu'on avait parlé un petit peu, hein. Et que les jeux vidéo peuvent être un vecteur d'apprentissage très utile. Et en tout cas, il nous a dit encore merci pour ce super podcast. On enchaîne avec Stéphane sur Facebook qui nous dit « The podcast à écouter ». Si vous ne voulez louper aucune information sur les nouveautés en termes pédagogiques et utilisation du numérique en classe. Que de retour, hein.
Merci. J'avais juste une petite pensée par rapport... Je suis très sérieux, Seb, promis, j'arrive les...
Non, vas-y, les
débilités. Non, pour de vrai, par rapport à ce qui est dit sur cette phrase avec le fait que les écrans font partie de nos vies et que c'est le contenu qui est plus important, en fait, je me disais que quelque part, depuis des années, sur tout ce qui véhicule de l'information, c'est le cas. Je veux dire, les livres, il y avait plein de livres et il y avait déjà des livres qui abrutissaient, qui dispensaient des idées plus ou moins nauséabondes, si je puis dire. Voilà, sauf que la seule différence, c'est que le livre s'est beaucoup moins vite propagé, ou en tout cas, touche beaucoup moins de monde, surtout chez les jeunes aujourd'hui. Mais finalement, ça illustre exactement cette idée. C'est le contenu beaucoup plus que le conteneur qui importe, bien évidemment, c'est ce qu'on en fait et comment on l'enseigne, on l'utilise avec des enfants. Voilà, tout simplement.
Et bon, on est parti ?
C'est parti.
C'est parti.
Allez, notre rubrique actu. Allez, c'est moi qui attaque, Guillaume,
vas-y,
c'est bon ?
Vas-y, vas-y, vas-y.
Allez, moi, je suis allé à la robotique éducative qui se passait à Lyon. J'en avais parlé, je crois, il y a peut-être 15 jours ou avant. C'était la troisième édition des rencontres nationales de la robotique éducative qui était le 2 et 3 octobre à l'IFE, à Lyon, l'Institut français de l'éducation. Moi, j'ai pu assister que la journée du 2 octobre, donc le mardi. J'ai pu assister à la conférence d'introduction qui était avec Thierry Carsenti, que peut-être vous connaissez, qu'on avait vu déjà à Ludovia, qui est enseignant-chercheur, lui, au Canada, et qui a beaucoup utilisé la robotique et beaucoup de recherches, en tout cas en robotique. Et puis, c'était un peu en parallèle avec une chercheuse que je ne connaissais pas, qui s'appelle Vanda Luengo, qui est aussi qui est pilote, en tout cas un groupe d'expertise nationale sur les traces d'apprentissage. Et là, c'était très intéressant parce que quand on parle de robotique, on voit faire joujou avec les petits robots comme je fais en classe. Et ben là, c'était plus sur l'intelligence artificielle. C'était un peu provocateur aussi en disant, est-ce que les robots vont pouvoir remplacer les enseignants ? C'était un petit peu ça le comment ça s'appelle ? C'était un petit peu l'introduction, c'était un peu là-dessus. Et c'est parti un peu sur l'intelligence artificielle, en disant que les robots, finalement, qu'on utilisait, nous, en classe, étaient très bêtes, hein, étaient vraiment pas très intelligents, mais qu'on se rapprochait de l'intelligence artificielle. Ils faisaient des ponts sur les, les assistants domestiques à la maison, que beaucoup de monde l'utilisait, qui n'avaient pourtant pas grand intérêt, mais qui ont commencé à avoir une petite intelligence dessus, commencé à avoir beaucoup de données, commencé à récolter énormément de données sur tout ce qui était évaluation, examen, etc. Et voilà, il y avait ce parallèle entre ces deux personnes. C'était très 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 intéressant. En tout cas, moi, Thierry Carsenti, c'est quelqu'un qui communique très bien, que j'aime beaucoup, donc c'était... Voilà, c'était facile avec moi. Mais Vanda Luengo, j'ai découvert en tout cas une petite dame très, très, très sympathique sur tout ce qui était sur les traces d'apprentissage. Vraiment, il y a vraiment énormément de données. Elle aimerait en avoir encore plus, puisqu'il y a toujours ces problèmes de données. Mais beaucoup de. Et puis j'ai l'impression qu'en tout cas, le gouvernement, notre ministre, en tout cas, pousse un peu là-dessus, hein, sur cette histoire d'intelligence artificielle, puisqu'il nous dit de tout ce qui était un peu les tâches plus rébarbatives. En tout cas, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle là-dessus. Donc, c'est un peu là-dessus que c'est parti. Après, c'était plutôt des tables rondes, des ateliers, etc. Et j'ai découvert, moi, un projet que je ne connaissais pas de robotique qui s'appelle Poppy, P-O-P-Y, qui est un projet complètement open source.
Open source.
Ouais. Tu connaissais, Seb, ouais?
Non, mais alors figure-toi, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps, justement. Ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais vu à Ludovia. C'était aussi un programme robotique moins élaboré. Je crois que ça s'appelait Rosa, sur Arduino, justement.
D'accord.
Un robot open source également.
Donc, c'est un beau projet, en tout cas, qui ne vient pas au départ du monde de l'éducation, mais qui vient vraiment du monde des makers au début. Puis, ça a été détourné... dans le monde de l'éducation. Et il y a toute une philosophie open source que j'apprécie bien aussi dessus. On peut le programmer dans un langage très très basique au départ, et on peut aller programmer on peut s'en servir jusqu'au lycée ou aux études supérieures, puisqu'on peut programmer en Python, etc. Donc c'est un beau projet. Il y a tout un site internet, en tout cas, qui est fait pour l'éducation dessus, piloté un petit peu par l'IFE de Lyon.
Et à quoi qui est le... Jeff, excuse-moi.
Eh ben, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs. Ils ont un très simple qui est un bras manipulateur, tout simplement.
Ah ben oui, c'est celui-là donc, que j'ai déjà vu. D'accord.
Ouais, voilà. Après, ils ont un vrai robot humanoïde et ils ont un robot aussi plus classique sur roue. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut le fabriquer nous-mêmes. On a tous les plans 3D, tout est donné, tout est open source, donc ça c'est aussi intéressant. Et l'association qui en tout cas qui s'appelle Poppy Station, qui a développé en tout cas tout l'aspect pédagogique avec ses robots. Donc c'était une belle découverte en tout cas, Poppy. Ensuite, moi je me suis baladé un petit peu dans des ateliers. Moi, c'était parti sur la robotique pédagogique, tout ce qui est interdisciplinarité. C'est un peu moi ce qui m'intéressait un petit peu. Beaucoup de premier degré, hein, Seb. Voilà, peut-être plus facile l'interdisciplinarité dans le premier degré. Peu de projets sur le second degré, je suis un peu déçu là-dessus, finalement, où c'est les profs de maths et de techno qui s'emparent de la robotique et pas grand-chose d'autre à côté. Donc, j'étais un petit peu. Je restais un peu sur ma faim dessus. Ensuite, plein de stands, bien sûr, il y avait toute la partie industrielle qui était là aussi, mais rien bien de nouveau, en tout cas, à se mettre sous les dents. En tout cas, moi, je suis assez content d'une rencontre comme ça, qui a pris beaucoup d'ampleur, ils ont refusé du monde, tellement qu'il y avait du monde, ils n'ont pas pu accéder à tout le monde. L'IFE ne peut pas accéder à tout le monde, mais on a eu un beau colloque, en tout cas, sur la robotique éducative. Voilà. Voilà, j'en ai fini. Merci.
Très bien. Et c'était dans le cadre de tes fonctions ou à titre personnel ?
C'était en fonction de mes fonctions et en travaillant à la DAN, oui, tout à fait.
Très bien.
Beaucoup non, de monde. Même un petit peu plus. Plus que ce qu'il en faut, puisque, comme je te disais, ils n'ont pas pu... c'était gratuit en plus, hein, mais donc ils ont refusé du monde en inscription.
Entendu ce paramètre. Ok. Merci Jeff. Voilà. Eh ben, je vais enseigner.
Vas-y, enseigne.
Je vais enchaîner avec une petite actualité plus que récente, puisque voilà, il y a. Pour ceux qui ne le savent pas, et vous êtes certainement nombreux tellement c'est palpitant, je passe une partie de mon temps de travail d'enseignement à l'ESP. Depuis maintenant 4 ans, je crois. Voilà, c'est ma 4e année en tant que titulaire. J'étais vacataire avant, donc à mi-temps. Hein, et hier, nous avons été convoqués, entre guillemets, par notre directeur de site pour nous annoncer en off quelques informations glanées sur l'avenir, en fait, de ces ESP. Et de la formation initiale en général, il se trouve qu'aujourd'hui, une dépêche, en fait, AFE, je crois, je ne connais pas exactement cette agence.
L'AFE, c'est... truc à l'étranger ou pas du tout?
Non, c'est pas FE, c'est pardon, AEF, pardon, l'agence, peu importe. Hein.
Okay,
AEF Info, spécialisé, qui a lancé ce qu'on nous avait déjà un peu dit, donc je peux sans aucun problème en parler puisque ça a été publié. Donc en fait, c'est un petit peu dans les tuyaux depuis quelques temps sur l'avenir en fait de l'ESP. Ben, l'avenir pour les ESP en tant que tel, il n'est pas très très brillant puisqu'en fait. Voilà, Monsieur Blanquer avait dit qu'il ne toucherait pas à cette partie, qu'il voulait réformer, mais sans vraiment toucher. Mais en fait, vous savez comme moi que les ministres de l'Éducation nationale en général ont toujours un moment quand même envie de laisser leur trace. Ils disent tous qu'ils ne veulent pas faire de loi portant leur nom, mais que finalement, il y a un moment quand même forcément, ça les titille un peu. Donc son idée, voilà, c'est que les ESP vont bien évidemment changer de nom. C'est vrai que ça changeait tout quand on est passé de l'UFM à l'ESP. On peut vraiment dire que ça a été la révolution la plus complète. Et nous allons devenir, enfin je dis nous, si on verra bien, hein, en ce qui me concerne, des instituts, des INSP, instituts nationaux du professorat. Alors il y a quelque chose qui est quand même assez rigolo, ne serait-ce que dans l'acronyme, puisque avant actuellement nous sommes des établissements supérieurs du professorat et de l'éducation, mais dans la prochaine mouture nous ne serons plus dans l'éducation, juste dans le professorat, Institut National du Professorat. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans, voulu pas voulu. Je ne sais pas trop, je ne saurais dire maintenant, mais il y a quand même un petit quelque chose là-dedans. Bon, dans les nouveautés, enfin en tout cas dans ce qu'on sait, sur ce nouveau projet de loi que M. Blanquer souhaite déposer, il y a plusieurs choses. D'abord, la première partie de cette loi, ça serait de ce projet de loi d'une école pour la confiance, pour une école de confiance, pardon, c'est garantir les savoirs fondamentaux pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on apprend dans cette nouvelle mouture, c'est qu'il y aurait encore moins de pédagogie et de didactique qu'il y en a aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs souvent reproché par les étudiants, ce que je peux quelque part comprendre. Je parle en off, hein, dans e-teachers, bien sûr, en tout cas en dehors de mon mon statut, si je puis dire. Je suis assez d'accord avec cette remarque dans les maquettes, même s'il y en a quand même aujourd'hui. Là, on reviendrait surtout à des savoirs fondamentaux pour tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus que du français et des maths et que tout ce qu'il y a d'autre en termes de savoir, notamment les langues vivantes, pour moi, c'est relégué à l'université avant l'entrée ? Je ne sais pas. Bon, ça pose un certain nombre de questions. Cette loi aussi de ce projet pour l'école de confiance évoque l'instruction obligatoire des 3 ans. Bon, ça, on s'y attendait un peu. Pourquoi pas ? On va pas.
C'est un. J'ai pas compris. Débat. C'est quoi ça ?
L'instruction obligatoire des 3 ans.
Ah, en fait, les 3 ans, d'accord.
Okay. La loi qui est en place pour l'école de confiance, c'est les SP, les histoires des SP, c'est qu'une partie de cette loi.
D'accord.
Et le renforcement du contrôle de l'instruction dispensée par les familles. Alors ça, je ne sais pas du tout vraiment pour l'instant ce que ça signifie. Des histoires de territoire, d'adaptation du territoire et bien sûr améliorer la gestion des ressources humaines et simplifier le système éducatif. Donc, il y a quand même un paquet de champs dans cette loi. On va bien voir ce que ça veut dire. En ce qui concerne en tout cas les SP, ça veut dire qu'il va y avoir des changements de directeurs, des directeurs qui seront nommés différemment, qui ne seront pas forcément issus d'ailleurs de la classe enseignante. Pardon ?
Toujours universitaire ou pas du tout ?
Eh ben voilà, en tout cas dans le comment on appelle ça, le conseil qui va élire, qui va nommer ses directeurs, parce qu'ils sont nommés par des personnes, il y aura des universitaires, mais pas que. Mais quelle proportion d'universitaires, etc., etc., ça, on ne sait pas trop. Mais il y aura surtout un nouveau recrutement pour les personnels enseignants. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté de faire rentrer encore plus l'université enfin, que l'ESP soit encore de plus en plus intégré à l'université, ce qui est déjà le cas de toute façon maintenant. C'était la réforme avec l'ESP. Mais encore plus, donc, aussi dans les recrutements. Donc, est-ce que ça veut dire que des enseignants comme moi, qui ne sommes pas du tout universitaires, qui sont recrutés sur des postes de certifiés ou d'agrégés, qu'est-ce qu'il va en être ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Puis en plus, on sera vraiment dans une école du professorat, plus de l'éducation. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de questions. Voilà ce qui est écrit exactement. Pour développer le pré-recrutement des personnels enseignants, le projet de loi modifie le code de l'éducation. Elle précise blablabla que certains assistants d'éducation sont inscrits dans une forme préparant au concours d'accès au corps des personnels enseignants ou des personnels d'éducation. Ils peuvent également se voir confier respectivement des fonctions pédagogiques et d'enseignement ou des fonctions d'éducation. Donc ça sera pour les prétendants au concours. On parlait aussi de l'évolution du recrutement qui pourrait commencer dès la licence pour justement recruter en amont. Donc, en fait, accentuer ce qui s'appelle la pré-professionnalisation déjà aujourd'hui, mais qui donne très, très peu d'heures. Donc, j'ai l'impression un peu qu'on fait du, comme d'habitude, vous allez me dire, du neuf avec du vieux. C'est pas très clair, mais il y a quand même la volonté de bouger et d'inscrire de plus en plus l'université comme le vecteur principal. Donc moi, je me pose juste la question de que voilà, les enseignants comme moi, sur temps partagé, entre guillemets, de terrain, quelle place on va avoir ? Elle me paraît forcément essentielle aujourd'hui pour des savoirs pratiques et non théoriques. Donc écoutez, voilà, ça y est, maintenant le projet de loi est lancé, si je puis dire. On lance un peu plus. Nous verrons bien. Est-ce que ça changera foncièrement le problème ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va l'améliorer non plus, mais j'espère juste que ça ne va pas empirer la formation avec un retour à du contenu pur, si je puis dire, qui ne soit pas mis en application par des enseignants quand même de terrain, parce que je crois que quand on débute dans ce métier, on a quand même besoin surtout de ça. Voilà ce qu'il en est pour cette gouvernance des SP.
D'accord, ça, à l'horizon de combien de...
Alors, le projet de loi...
Est ça trop
ça, si, bien sûr que si. Ça, moi, je l'ai su en réunion avec mon directeur de site, hein, du site de la loi qui nous a dit ça. Tous les documents, en fait, ils parlent de la rentrée 2019. Mais en fait, tous les gens qui travaillent se disent que c'est bien évidemment impossible à envisager aussitôt. Après, vous savez, à une époque où on avait un président qui s'appelait Sarkozy, il avait quand même réussi en très peu de temps à faire en sorte que pendant une année, les lancers de la formation initiale soient supprimés. Si vous vous rappelez,
bien
vous
n'avez
plus de temps partagé, les candidats, les collègues étaient en temps plein et ils avaient un lundi par semaine de formation contre. Voilà.
Ils sont capables, hein.
Voilà, ils sont capables. Je veux dire, ça serait
pas. Regarde, quand tu regardes la réforme des lycées qui arrive.
Oui, vous voyez, en fait, on a un peu l'impression. Dans cette période politique où finalement les présidents changent tous les 5 ans, Donc les gouvernements également, que chacun veut quand même laisser sa trace, quoi qu'ils en disent, et qu'ils se dépêchent un peu pour avoir leur nom sur une loi, quoi. Bon, écoutez, nous verrons beaucoup de choses. Moi, j'espère juste qu'on n'oubliera pas que voilà, l'enseignement de terrain est associé, bien sûr, à des enseignants partagés. Je pense comme on l'est, profite quand même pas mal aux jeunes. Et que si on enlève déjà ça, on risque d'avoir encore plus un mauvais retour qui est déjà, il faut le reconnaître, pas toujours très, très glorieux. Voilà.
Tout à fait. Et puis, il faut se souvenir aussi que tu as cité cette merveilleuse époque de notre cher ex-président, M. Nicolas Sarkozy. À cette époque, au niveau de l'éducation nationale, on avait quelqu'un qui n'est autre que notre actuel ministre de l'Éducation. Il était déjà dans les hautes sphères.
Tout à fait, M.
Blanquer. Bien sûr. Le coût de la licence, moi, ça c'est toujours très rigolo, quoi. On a été chercher un bac plus 5 pour... notamment pour mes chers collègues. Hein. Moi, j'ai été recruté après ma licence, mais ça serait plus possible maintenant. Et je me dis souvent que si j'avais dû pousser encore 2 ans, ben, j'aurais fait vraiment un autre métier que celui qui est le mien. Voilà.
C'est possible. Hein.
Ouais. Bon, je te dirais pas que nous a bien plombé l'ambiance avec ton actu. Hein.
Bravo. Oui, je crois en tout cas que c'est important de savoir qu'il se passe des choses, que voilà, c'est dans les tuyaux, c'est dans les projets. Moi, j'attends de voir un petit peu ce qui... Bon, on est quand même un métier, de toute façon, la formation ne sera jamais supprimée, ça, on le sait, ça, c'est pas pensable. Même à l'époque de Sarkozy, ça n'avait pas été possible s'il l'avait souhaité. C'est juste qu'il faut pas... Voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et à une époque où, en plus de ça, on a quand même des déficits de recrutement assez énormes, surtout dans le secondaire. Enfin, c'est quand même de pire en pire. Il va quand même falloir se poser de sacrées questions sur pour quelles raisons, justement, on a ces problématiques. Quoi. Mmh. Voilà, et je pense que c'est lié à tout ça.
Ouais. Pour retrouver l'article, simplement, tu n'as pas mis le lien. Donc,
Parce que je l'ai reçu par mail. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver et je le mettrai dans les notes de l'émission.
Ouais, parce que j'ai eu du mal à le trouver. Ouais.
Mmh. Pas de souci. Voilà.
Ok, allez, on enchaîne.
On enchaîne.
Allez, parlons un peu outils. Hein,
voilà. Ouais.
Bon, on va trouver le sourire. Allez, Seb, vas-y, attaque. Allez.
Okay. Bon, alors, moi, j'étais tombé. Alors, je suis un petit peu en ce moment dans une auto-formation sur le montage vidéo. Une merveille de petite complexité, ce truc. Parce que je suis un très, très néophyte dans l'idée. Et je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa, du montage. Je me suis rappelé que l'année dernière, je crois, je vous avais parlé d'un des produits d'Adobe sur iPad qui s'appelle Adobe Clip, qui permet de faire des montages très simples avec le côté pâte Adobe. C'est tout fait, ou presque, mettez vos images et vous avez un produit fini de qualité presque professionnelle. Presque. C'est toujours un outil assez sympathique. Là, je l'ai rouvert tout récemment. Alors, vous avez, je sais pas moi, vous avez 5 images et une vidéo. Vous voulez en faire une vidéo entière. Ça fonctionne très, très bien. Ça rajoute une petite musique de fond. Bon, ça s'appelle Adobe Clip. Bon, bien sûr, après, si vous êtes à bosser sur Premiere, vous pouvez récupérer le truc. Mais bon, je me demande toujours quelle est la véritable utilité d'aller récupérer sur Premiere un petit truc aussi simple. Mais bon, donc vous avez Adobe Clip qui existe, ça ne fonctionne que sur iPad, ça fait partie des petits produits bien finis d'Adobe, comme pour ceux qui utilisent Adobe Spark Video par exemple. Spark Video, c'est dans la même idée que Spark Page, etc., tout ce genre de produits. Et récemment, chez notre ami Tisman, j'ai vu passer un produit. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas eu le temps de bien l'utiliser. Voilà. J'ai bien eu le temps de l'utiliser. Je vais juste vous exposer le principe. C'est pour faire des vidéogrammes. Le logiciel s'appelle Headliner.
Des vidéogrammes, je ne sais pas ce que c'est, moi. Vidéogramme.
Mais attends, j'y arrive.
Ah bon, pardon.
Voilà. Je mets des mots un peu compliqués.
Une bonne relance. Mais un vidéogramme, c'est quoi, Jamy?
Mais enfin, c'est tout simple. Allez, Marcel, fais chauffer le camion. Oh là là, ça me donne des moyens dans cette émission.
C'est exceptionnel. Bruitage à la bouche, manière voilà. Pardon, vas-y.
Alors, donc, Headliner fait des vidéogrammes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vidéogramme? Principalement destiné aux réseaux sociaux, le vidéogramme permet, à partir d'une source audio, de réaliser une vidéo. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le programme va transcrire l'audio que vous lui donnez. Et à partir de cette transcription, il va y inscrire des médias, principalement des photos, et il vous fait le montage dans la foulée. Et si vous êtes gentil, apparemment, il fait le café.
Je l'ai testé, en fait, je viens de m'en rappeler.
Ah ben bravo.
Oui, j'ai testé.
Tu fais des vidéogrammes sans le savoir.
Oui, j'avais testé, tout à fait.
Alors, ça me fait pas mal envie, parce que j'ai toujours mon projet de web radio avec mes élèves, et je me dis que ça peut être sympa, parce que comme j'ai une plateforme qui est plutôt vidéo pour la présentation, je peux très bien prendre ce qu'ils ont fait et essayer de voir ce que ça donne comme programme. Ou alors, j'y ai pensé en anglais, parce que de base, il fonctionne en anglais. Ça peut être sympa aussi de voir ce qu'il peut donner. Donc, qu'est-ce que tu t'en rappelles maintenant, Jeff ?
Je suis en train de relire. Je ne sais plus ce que j'avais testé.
Après, si on veut simplement une transcription texte de la vidéo, apparemment, le programme n'est pas trop mauvais. Pas trop mauvais. Après, vous savez, il y a toujours des... toujours des coquilles, on va dire. Hein. Ça reste des intelligences artificielles encore un peu bêtes, heureusement, pour nous. Mais voilà. Donc, c'est un programme qui est plein de promesses.
Si je m'en souviens, ça avait été assez long pour récupérer la vidéo, je crois. Il y a un temps assez long.
Voilà. En tout cas, ça m'a donné bien envie de l'essayer. Je vais m'y atteler plus sérieusement quand j'aurai fini de faire d'autres trucs avec mes élèves. Mais voilà. On est toujours sur l'idée de faire une vidéo avec le moins de soucis possible. Hein, parce que pour ceux qui touchent un peu au montage, on le sait, voilà, quelques minutes de vidéo, c'est quelques heures de travail derrière. Alors, avec des élèves, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors ils adorent ça, ils ont pas besoin de nous, mais moi, les miens, ils ont besoin de quelque chose de simple et fonctionnel. Et ça pourra peut-être y répondre. Voilà, messieurs.
Au prochain. Okay. C'est moi, c'est ça ? C'est moi.
Moi aussi,
allez. Allez, j'ai découvert un petit outil, ou plus de, on va dire des outils, qui s'appelle le cryptpad.fr, hein, CRYPTPad.fr. Vous allez me dire, c'est un énième pad.
Oui. Je vais faire la petite voix. Oui, c'était un petit... Pardon.
C'est un énième pad, mais c'est pas que. Voilà. C'est déjà open source, c'est français, c'est développé en France. Et quand on connaît les pads de chez Frama ou sur nos ENT, etc., il prend un sacré coup de vieux quand on a celui-là, en tout cas. Donc, on peut créer avec pad, un pad, hein, si je vous rappelle, on crée un pad, c'est-à-dire qu'on peut, en distribuant le lien, plusieurs peuvent écrire en même temps sur ce pad-là. Et c'est un pad vraiment de texte, ils appellent ça un pad de texte riche, parce qu'il y a vraiment toute une fonction dessus de traitement de texte, d'accord ? C'est pas un simple pad où on pouvait pas faire grand-chose dessus. Mais donc voilà, pas besoin de compte, on peut créer le pad directement tout de suite. Au point de vue graphisme, franchement, c'est plutôt plaisant. Il y a un petit chat intégré, rien de nouveau à l'horizon, vous allez me dire. C'est vrai, mais vraiment, il prend un petit coup de jeune, en tout cas, ce CryptoPad. Je vous ai dit qu'il ne faisait pas que, il peut faire aussi un pad de code. Alors, pad de code, c'est quoi ? C'est créer du code en collaboratif, pourquoi pas ? On va pouvoir faire une présentation collaborative aussi dessus. Ils appellent ça une présentation Markdown. Donc, c'est la présentation collaborative, un peu à la Google, je ne sais pas comment il s'appelle, Slide, c'est ça ? Un peu cette ambiance-là. C'est plutôt bien fait. Sondage, hein, le simple sondage ou planning. Et un truc que je vais utiliser cette année, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, K-N-B-A-N, Kanban, je sais pas, Kanban.
Kanban, c'est japonais. Ouais.
C'est japonais ?
Oui. D'accord.
C'est vrai ou tu plaisantes ?
Non, je ne plaisante pas. Oh, l'attaque, mais bien sûr que non, je ne plaisante pas, c'est un système d'organisation.
On n'arrive même plus à savoir ce qui est du faux dans ces missions. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Vous savez, c'est les plannings, on dit à faire, en cours, terminé, vous savez, vous marquez les tâches que vous avez à faire.
Ah, un Kanban, quoi.
C'est la version numérique des petites fiches en carton qu'on glissait dans ces grands tableaux métalliques.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et ben, c'est plutôt bien fait, ça je vais l'utiliser parce que c'est plutôt très sympa. Vous pouvez en créer des nouveaux, hein. Il n'y a pas que en faire en cours terminé, vous pouvez en créer à votre guise. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je continue, hein, je défile un petit peu les fonctionnalités de CryptPad. On continue par un tableau blanc collaboratif, un tableau blanc simple collaboratif. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle des pads locaux. Alors ça, j'ai pas testé. C'est-à-dire de créer des pads qui vont être hébergés dans le navigateur. Donc ça, j'ai pas testé, c'est à tester. A priori, hébergés dans le navigateur. Ça, c'est sans compte, mais on peut créer un compte. On peut créer un compte. Donc, créer un compte, ça veut dire qu'on va avoir tous nos pads sous notre compte, donc assez facilement pour le retrouver. Donc, on va pouvoir le partager, tout ça, on va pouvoir les intégrer. Donc, c'est plutôt, en tout cas, c'est plutôt une bonne trouvaille, ce CryptPad. Ils cherchent des financements, forcément. Quand on parle d'open source, on a toujours des problèmes de financement, donc vous pouvez les financer. Mais c'est un service, je trouve, plutôt très, très intéressant. Voilà. CryptPad.
Alors, Guillaume décède dans son coin.
Ouais, je suis désolé, moi aussi.
Je te dirais que c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'en fait, c'est très propre. Voilà.
Ouais, c'est très propre.
Voilà, il faut un peu faire le ménage parce que là, j'ai essayé, là, je me suis fait agresser par les pop-up, pas les pop-up, mais en fait, il y a tellement de trucs possibles et imaginables que tu es obligé de faire un peu le ménage. Mais franchement, il réunit pas mal de choses et avec une belle présentation.
Ouais, moi je trouve aussi.
En tout cas, effectivement, il est chouette par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Beaucoup plus moderne, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il s'exporte ces pads ou pas? T'as un code embed qu'on peut récupérer quelque part ou pas?
Tout à fait, t'as pas écouté d'ailleurs, c'est pour ça.
Tu l'as dit?
Oui.
Non, pas vrai, tu l'as pas dit. Je reconnais que j'ai pas écouté pendant deux secondes, j'étais en train de réfléchir. Voilà.
Tout à fait. Mais... Allez, on enchaîne, c'est à toi en plus Guillaume de parler. Allez, moi j'écoute plus.
Deuxième fois de l'émission quand même que je te fais répéter un truc que tu avais dit tout à l'heure, c'était sur s'il y avait du monde à la conférence. Et bon, bah, très bien. Bravo les cheminots. Alors, on continue avec mon outil. C'est un outil que j'ai découvert récemment là, sur un outil de veille justement qui s'appelle Parallel Text. Et voilà, qui m'a sauté aux yeux puisque c'est plutôt un outil pour les personnes qui souhaiteraient développer leur langue vivante, une langue vivante. Donc, comment ça se passe? Alors là, même si la plupart de notre public nous écoute en audio, je vais quand même partager l'écran pour les quelques-uns qui...
Moi, je ne l'ai pas fait. Hein.
Bah, c'est pas grave. Moi, je vais le faire quand même. Donc, en fait, Parallel Text, le principe de Parallel Text, il est simple, c'est de continuer, en fait, à... Pardon, je vais muter mes notifications. Vous rappelez, j'avais présenté plusieurs fois des outils pour travailler, améliorer une langue avec des vidéos comme Flix, comme PlayFriendly, ouais. Des choses comme ça. Voilà. En gros, à partir de vidéos Netflix, YouTube, on pouvait d'abord mettre des sous-titres français, apprendre anglais en cliquant sur les mots. On avait pas mal d'interactivité. Là, l'idée, c'est un petit peu de travailler sur ce principe-là, sauf associé à la lecture. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude de lire en plusieurs langues, c'est ce qu'on appelait des livres bilingues, mais web 2, quoi. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Pour ceux qui voient, tant mieux. Les autres, j'explique. Vous allez sur le site, on va vous demander de quelle langue vous parlez. Donc, bon, moi, je suis francophone et on va surtout vous demander ensuite à quelle langue vous souhaiteriez, avec quelle langue vous souhaiteriez vous améliorer. Bon, je vais imaginer que je souhaite m'améliorer en anglais, ce qui est fort possible. À partir de là, il vous propose en fait un certain nombre de livres qui sont déjà enregistrés, bien évidemment, parce que ça ne marche pas aussi simplement que ça. Donc, vous choisissez un livre, ce sont tous des livres... mes excuses, qui sont tombées dans le domaine public, bien sûr. Et vous allez pouvoir travailler sur les deux langues. Allez, on va commencer avec Pride and Prejudice, qui est un bien connu, livre bien connu des personnes qui ont travaillé l'anglais à un certain niveau universitaire. Donc, ça commence par la lecture originale. Chapter 1. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Donc, en fait... cette première phrase, vous pouvez la lire dans la langue que vous souhaitez améliorer. Vous pouvez l'écouter, donc ça, c'est pas mal. Alors, malheureusement, ça va être quelque chose de plutôt synthétique. Je ne sais pas si ça, on entend.
Non.
On entend
très faiblement.
Ouais, très faiblement. C'est pas terrible, terrible. Hein. C'est la fameuse lecture, vous savez, synthétique des textes. Il y a bien mieux aujourd'hui, mais on peut quand même avoir ça. Mais de toute façon, les profs de langue ne me contrediront pas. Quand on est dans de la compréhension écrite, qu'on développe cette compétence, on n'est pas sur des compétences orales, de phonologie ou autre chose. Donc, c'est pas forcément important. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'en cliquant sur la petite flèche à côté de la phrase et du segment, je vais cliquer dessus et bien évidemment, j'ai la version française qui arrive. Alors, j'ai vérifié juste sur le premier passage. C'est une version française qui est mieux qu'une Google Traduction, si vous voulez. Je ne suis pas certain que ce soit la traduction officielle du livre. Je ne suis pas allé vérifier dans le livre original parce que je ne l'ai pas en français, pour tout vous dire. Mais en tout cas, ce n'est pas du traduction du mot à mot. Ça n'aurait aucun sens, bien évidemment. Donc, c'est quand même le sens général est bien, plutôt bien fait. Donc, ça peut avoir un intérêt pour les gens qui lisent déjà, quoi. En fait, c'est pas du tout un outil pour commencer à apprendre bien évidemment. C'est pas du Olingo, c'est pas tout ça. Par contre, si vous lisez déjà un peu une langue, que ça vous intéresse de tenter une lecture, souvent c'est ce qui fait peur quand on apprend une langue vivante, à un moment où on doit passer à la lecture un peu plus thick, quoi, un peu plus fat, un peu plus épaisse. On se dit, mais je vais rien comprendre. Et il est absolument impossible de lire un livre en langue étrangère avec un dictionnaire à côté de soi. On s'arrête à tous les mots. Et puis, c'est pas comme ça qu'on apprend à lire. De toute façon, une langue étrangère, ça n'aurait pas de sens non plus. Là, c'est pas mal. Alors, par contre, il va pas falloir faire le va-et-vient tout le temps. Il faudrait vraiment se servir à la fin d'un paragraphe. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Il traduit des paragraphes complets ou des segments complets et pas du mot à mot. Donc, c'est plutôt assez impressionnant. J'ai pas testé sur tablette. J'espère que ça marche parce que ça peut être quand même plus intéressant d'avoir sur des liseuses ce truc qui fonctionne. Et voilà, c'est plutôt original. Voilà, vous avez même une vue possible d'avoir une vue splittée avec la version originale et la version traduite à côté. Donc ça, on connaissait déjà, hein, les livres bilingues, ça existait depuis longtemps. Moi, je préfère la vue d'abord dans une langue et on va cliquer si besoin est, plutôt que le parallèle, sinon on fait que le va-et-vient entre les deux. Voilà, parallèle texte, comme son nom l'indique. Bon, pour l'instant, ça ne marche que sur des œuvres classique de chez classique, mais j'ai pas essayé. Tiens, si par contre je dis que je parle, mettons le français et que je veux m'améliorer en allemand, on va essayer ça en direct. Qu'est-ce qu'on me propose comme livre? Ok, d'accord. Bon,
il y a un peu moins.
On propose Mein Kampf, c'est un peu. Non, je déconne.
Point Godwin en direct.
Point Godwin en direct. bien évidemment.
Oh putain.
Je l'ai faite. Ouais, ça va, ça va. 22h06, on peut dire des conneries. Hein. Bien, en tout cas, vous voyez, on a Jenner, Alice au Pays des Merveilles, Madame Bovary, Notre-Dame de Paris, The Fall of the House of Usher. En français, je ne sais pas comment c'est, doit être Edgar Allan Poe, la chute de la maison de Usher, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, bien sûr, c'est gratos. Voilà.
Je l'avais vu passer ça en plus, tu vois.
Ouais, bah, je crois qu'on est un petit peu sur les mêmes outils de veille, hein, donc finalement, c'est un peu normal.
Ah, mais quand ça parle de langue, j'ose pas
toucher. Je sais, ouais, je sais bien, ouais, t'as bien raison. Touche pas les langues.
Allez, on enchaîne. On en est où là?
Et bien, on en est où? Oui, parce qu'il n'y a pas de trucs et astuces.
Ouais, putain.
Carrément. Allez.
Innovation, expérimentation. Moi, c'est un tout petit truc. On va parler de police de caractère. Ça ne fait pas rêver, hein, c'est sûr. Mais elle s'appelle le Sanforgetica. Voilà. Cette police de caractère. En tout cas, c'est issu d'une recherche. C'est une découverte. En tout cas, on dit que cette police de caractère permet de nous aider à mémoriser ce qui est écrit. Alors, là, c'est pas. Eh bien, je vais te faire voir ça tout de suite.
Mais comment ça fonctionne?
Donc, en fait, en gros, cette police de caractère, si vous regardez, elle est légèrement coupée, comment on peut dire, effacée. Il y a des morceaux effacés des lettres. Hein. Par exemple, le S, on voit qu'il y a carrément un coup de blanco sur le S et sur chaque lettre. Quand on regarde comme ça, on nous dit, mais il nous prend complètement pour des fous. Hein. C'est ce truc-là. Mais c'est bien en tout cas de chercheurs de Melbourne, en tout cas, qui ont créé cette police. Et en tout cas, voilà, elle nous dit que doit inciter votre cerveau à s'engager dans un traitement plus approfondi et pas la même améliorer ou du moins faciliter la mémorisation. Donc, il faut essayer. Voilà, vous avez l'alphabet qui est comme ça paraît. Hein, mais c'est vrai que quand on Alors j'essaie de la prendre, voilà le site. Quand on essaye vraiment d'écrire une phrase dessus, hein, par exemple ici, si pour ceux qui regardent, bonjour, bonjour Guillaume, c'est magnifique.
On en parlera pas de ce qu'il y a derrière là.
Voilà. Et vous voyez que j'ai l'impression que notre regard, en tout cas, force un petit peu à déchiffrer. Alors, je ne sais pas, il faut réessayer avec un texte un peu plus long. Mais je trouve en tout cas que le comment ça s'appelle ? Que c'est une belle, en tout cas, un essai à tester. En tout cas, voilà. Sans Forgetica. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
Forgetica, bien sûr, puisque l'idée, c'est de ne pas oublier. Donc, Forgetica.
Ah, Forget, ah, oui, t'as raison. Okay. Oui,
Forgetica. Pas rendu, les gars. Hein. Ah, pardon. Après le coup du Serge Blanco, là, on a le Forgetica. Ben, dis donc.
J'avais même pas pensé à Forget. À Forget.
Non, c'est sûr. Alors, le sang, moi, je ne suis pas graphiste, mais je sais que sur Netflix, le sang, c'est, je ne sais plus ce que ça veut signifier exactement, mais une histoire de... je ne sais plus, mais on le voit souvent dans les polices, comics sans MS, comics... Tout à fait.
En tout cas, vous pouvez la télécharger et l'installer sur toutes vos machines. Voilà.
Moi, essayez. Est-ce que, par contre, ça ne serait pas à l'inverse une police qui serait à déconseiller pour des élèves en situation de handicap, de dyslexie ou de choses comme ça? Je ne sais pas.
Sauf si tu veux les perdre définitivement.
Oui, peut-être.
Mais en tout cas, c'est rigolo, ouais, l'idée...
Puis derrière, c'est pas été fait comme s'il y a une recherche derrière, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà.
Oui, bien sûr, ça n'a pas l'air d'être trois guignols qui se sont dit tiens, on va effacer des parties des lettres.
Voilà.
Ça a aidé à mémoriser. Bon, eh ben, écoute, ma foi, très bien. Nous irons voir ça et nous pourrons la tester.
Voilà, c'était une petite chose.
On va passer à ce que l'on fait en ce moment. Ben Seb, je t'en prie, parle-nous de ton actualité pédagogique.
C'est incroyable, j'ai écouté un très très bon podcast l'autre fois, et il y a un des animateurs qui avait l'air un peu malade quand même. Et, il présentait une solution logicielle pour faire de l'animation image par image, et j'étais tellement séduit par son discours que je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut que je l'essaie dans ma classe. Alors, ce podcast, c'était eTeachers. Alors forcément, celui qui était un peu malade, alors c'est pas Guillaume.
On pourrait le croire.
Mais non.
C'était le numéro 81, je crois.
Voilà.
D'ailleurs, j'ai coupé le micro 3 secondes.
Et donc, j'ai pu essayer animation image par image. Donc, c'est très, très sympa. Franchement, c'est un logiciel que j'aime parce qu'il est customisable. Il est payant dans sa customisation, mais pas les fonctions de base sont tout à fait suffisantes. Et avec les miens, ça a été très pratique. Alors, moi, je suis dans la phase, prise en main du logiciel avec les élèves, puisqu'ils ont refait ce qu'ils savaient faire avec le précédent, dont j'avais rapidement parlé, qui n'était pas top, parce que justement, il n'y avait pas le côté image fantôme du cliché précédent qui permet de se recaler. Donc ça va être l'objet du prochain apprentissage. Mais franchement, j'ai fait une séance de quoi ? On a fait ça en art plastique, ça a dû durer un peu moins d'une heure, et j'ai récupéré toutes les vidéos juste après. Donc, impeccable. Donc, merci pour la recommandation, Monsieur Jeff.
C'est bien, c'est testé directement après, c'est bien.
Ouais, écoute...
La classe.
Allez, Guillaume, vas-y.
Ouais, je vais essayer d'aller au bout, même si ça commence à être dur. Alors, en fait, c'est quelque chose d'assez... moi, je réfléchis un petit peu. Je fais les histoires des vieux pots, hein, vous savez, là. Voilà, donc, le vieux pot, c'est la réflexion sur la trace écrite, hein, la trace écrite d'un cours. Et comment on va faire une bonne confiture ou une nouvelle confiture avec ces vieux pots. Bon, le principe de la trace écrite, je ne sais pas si vraiment ça s'applique à toutes les matières systématiquement, je ne saurais dire. En ce qui me concerne en anglais, c'est quand même quelque chose qui est assez important à partir du secondaire, d'avoir à la fin de chaque fois de ces 55 minutes de cours, une trace écrite qui reprend bien évidemment le contenu de ce qui a été échangé, reformulé, répéter, augmenter, tronquer, etc. en cours de langue. Mais je pense, sans trop me tromper, qu'il y a des traces écrites quand même d'une manière générale dans la plupart des matières enseignées, peut-être pas aussi fréquentes, ou en tout cas, peut-être données polycopiées, tout ça. Nous, en anglais, c'est vraiment, en langue vivante, c'est vraiment une trace écrite qui vient de ce qui a été échangé en termes de langue dans la classe. Le problème des langues vivantes, vous en doutez, c'est comment, en fait, finalement, de passer d'une trace écrite, d'une trace orale, enfin, d'un contenu oralisé en cours avec des questions de prononciation, surtout en anglais, mais enfin dans la plupart des langues, vers une trace écrite pour que les gamins puissent la mémoriser à la maison, qui fait disparaître le côté oral, et pour retrouver le cours suivant la même fidélité. Donc on a des techniques, on a ce qui s'appelle un alphabet phonétique international que les enfants sont censés connaître, qui leur permettent à la maison, quand ils ne connaissent pas un mot, de lire le codage phonétique et de le retrouver. Mais bon, ça c'est dans les faits, c'est bien joli. Tous les enfants ne le lisent pas et c'est pas aussi évident. On a aussi maintenant des outils numériques. Hein, les enfants sont tout à fait capables de... on leur montre des outils pour aller justement sur Internet, taper le mot qu'ils ne connaissent pas, voire même la phrase, l'écouter de manière synthétique, c'est mieux que rien. Bon, moi, ma question, c'était, est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui d'en finir avec la trace écrite et ne passer qu'une trace orale en langue vivante? C'est-à-dire, est-ce que ça serait possible aujourd'hui de me dire, ben tiens, finalement, moi, en tant que prof, si je suis modèle ou si j'ai un assistant, mais c'est plus difficile en tant que prof, je vais enregistrer la trace, je vais la lire, je la mets sur le ENT et les gamins l'écoutent. C'est quelque chose, en fait, qui était fait, que je fais toujours pour les élèves au début en situation de handicap, justement, de dyslexie très très forte, où la simple lecture d'une trace écrite peut poser d'énormément de problèmes. Donc, je passe uniquement par le son et par la phonologie pour qu'ils la mémorisent. Et en fait, un jour, j'ai tout simplement oublié de mettre la trace écrite pour l'ensemble des élèves, comme je fais d'habitude, en PDF sur mon ENT. J'ai mis que... c'est un élève à qui je donnais la trace orale l'a donnée à d'autres élèves comme ça. Et en fait, plusieurs élèves sont venus me voir en me disant, mais en fait, pourquoi en gros, on ne l'a pas pour tout le monde? Et c'est vrai, finalement. Pourquoi on ne met pas tout pour tout le monde, ceux qui en ont plus besoin? Bref. Et ben voilà, donc mon idée, c'est un peu ça. C'est peut-être petit à petit, alors pas tout le temps, puisque les compétences de l'écrit et de la lecture sont aussi importantes, mais je pense que pour les petites classes, et ça c'est aussi venu de ma réflexion, puisque toute la journée j'étais à l'ESP avec des enseignants du premier degré que je forme en didactique des langues, justement, à leur répéter qu'avant le cycle 3, absolument aucun écrit et début des petites traces écrites en cycle 3 sur le CM1, CM2. Et je me suis dit, mais en fait, n'oublions pas que nos débutants de collège, des 6e, voire même des 5e, ce ne sont que des élèves de primaire avec 2 ans de plus dans les pattes. Et finalement, pourquoi eux aussi, on commence d'entrée de jeu comme si au collège, il fallait absolument commencer la trace écrite dès la 6e? Eh ben non, sachant qu'on est bien conscient que tous les enfants mémorisent beaucoup mieux, ce qu'on appelle des blocs lexicalisés, des segments uniquement oraux, sans forcément passer par l'écrit et déconstruire, ce qui souvent amène plus de difficultés au début. Donc, je vais essayer de plus en plus, pour l'ensemble, de passer par des traces orales. Et en discutant en fait avec des collègues, il y a plein de collègues qui me disent, mais en fait, pourquoi pas le faire le plus souvent possible. Les collègues d'histoire qui ont des traces écrites souvent en français assez conséquentes, est-ce que pour certains élèves, écouter le cours ne serait peut-être pas finalement beaucoup plus marquant que de le lire avec des élèves qui ont des difficultés de lecture? Alors vous allez me dire, certains collègues vont dire aussi, ben, si en plus tu fais ça, les gamins déjà qui lisent pas beaucoup, ils vont encore moins lire. Oui, on peut avoir cette discussion-là, mais voilà, enfin, je pense que vous voyez un peu le questionnement que j'ai aujourd'hui par rapport à ces fameuses traces qu'on trouve dans le cahier, qui pour moi sont absolument essentielles, parce que je pense que vraiment aujourd'hui, c'est important de garder ce lien entre ce qui est fait en classe et leur classe, plus que jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, cette liaison entre les deux. Et comment, pourquoi pas tenter ce genre d'expérience et proposer des choses à écouter. Voilà. Vous allez me dire, c'est un peu ce que la classe inversée tentait de proposer avec des capsules. Hein.
C'est ce que je vais dire.
Mais... moi, c'est pas ça, puisque c'est l'inverse. C'est pas de la classe inversée. Là, c'est vraiment
le bilan du cours.
Le bilan, quoi. La trace écrite, qui est censée justement reprendre ce qu'on a vu et que les élèves, s'ils écoutent, se sentent pas largués. Le risque de la classe inversée, c'est que on a déjà parlé plusieurs fois ici. Hein, c'est que soit les gamins le font pas, ils sont perdus au cours d'après, ou alors même face à une vidéo qui donne des explications, ils ne peuvent pas forcément tout comprendre en amont. Alors que là, si c'est ce qu'ils ont fait en classe, normalement,
ils ne trouvent pas.
Voilà un petit peu ce sur quoi je travaille. Bon, bah, ça demande techniquement une petite dictaphone et pas grand-chose. Et les ENT font que très facilement, il est possible de mettre ça en ligne. Voilà.
Très bien. après, selon votre réflexion, moi, ça va être très, très rapide.
Désolé, c'est trop de réflexion. Désolé.
je reviens encore sur mes petits robots. Moi, sur la robotique, je suis en train de travailler en tout cas sur dans les. Alors, c'est pas un ESP, mais c'est à l'université de Lyon où je vais aussi enseigner la robotique au M1 et M2, en tout cas futur PE et ceux qui ont réussi le concours. Voilà, où je vais aussi mettre en place un cours de robotique, hein, quelques heures, en tout cas sur la robotique. A priori, ça se fait nulle part ailleurs qu'à l'Université de Lyon. Il était assez fier, en tout cas, l'universitaire qui est venu me chercher pour ça. Donc voilà, en ce moment, je suis en train un petit peu de travailler là-dessus. Voilà.
Et bah, très bien.
Sur quoi comme robot ?
Une multitude. Du Ozobot, du avec les trois boules là, que j'avais présenté la dernière fois, j'ai perdu le nom, du Timio, beaucoup de choses.
Ok.
Bravo, sur des robots qui font la bouffe pas chère, non, ça n'arrive pas.
La bouffe pas chère peut-être, mais qui est bon aussi.
Les robots cuisiniers, c'est cher. Hein, donc...
Les robots cuisiniers, c'est cher, quoi. C'est con. Très bien.
Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour parler d'autre chose un petit peu là?
Ouais, allez, je dans mon conseil lecture de cette semaine, je vais vous conseiller un manga. Ça faisait longtemps. Après le livre, après les séries télé, un petit manga. Le manga s'appelle L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. C'est édité chez Pika Édition. Ça se place dans un univers de fantasy où un ordre de sorciers se permet d'utiliser la magie pendant que le reste de la population vit dans une espèce de Moyen-Âge un peu amélioré. C'est très sympathique. C'est catégorisé dans un seinen, c'est-à-dire les lectures qui sont généralement conseillées pour les jeunes adultes. Ma catégorie jeune adulte dans les mangas. C'est très sympathique, le dessin est très beau. C'est au troisième tome, on remarquera que l'éditeur fait un bel effort sur les éditions. Il fait des éditions collector, il essaie de mettre des goodies, ce genre de choses. Le dessin est vraiment beau. C'est vraiment le genre de dessin que j'aime chez nos confrères japonais. Toujours simple comme les mangas savent le faire, mais là, il y a du détail quand même, c'est beau. L'intrigue est pas mal du tout, c'est assez simple, hein. C'est une jeune fille qui est prise sous l'aile d'un sorcier un peu à part dans son ordre, etc., qui va découvrir le monde de la sorcellerie, et nous allons le découvrir avec elle, mais elle n'est pas seulement ce qu'elle semble être, et sur elle plane un très grave secret, etc., des luttes de pouvoir vont s'engager, et peut-être que le monde sera changé. Voilà. L'Atelier des sorciers, 3 tomes pour l'instant.
Ok. Guillaume, où j'y vais, moi ?
Vas-y, si tu veux.
Allez, donc je pourrais rebondir sur ton... parler d'autre chose.
Très bien.
Moi, je reste un peu dans la partie numérique. Il y avait la conférence Microsoft il n'y a pas si longtemps. Microsoft a parlé d'une mise à jour de Windows 10 que je trouve assez intéressante. Alors, la première qui va rattraper un petit peu les amateurs d'Apple, ils vont peut-être rire, c'est d'avoir avec notre téléphone Android, d'avoir répondre aux SMS et de je sais que ça existait depuis longtemps sur Mac.
Oula, oui.
Mais c'est surtout, ce qui va être intéressant, c'est la future mise à jour qui va arriver, qui est carrément du screen mirroring. Hein, vous savez, c'est le screen mirroring, c'est carrément avoir son téléphone entier sur son PC, et a priori même pouvoir cliquer, pouvoir contrôler son PC, son téléphone Android à partir de son PC. Moi, je trouve que Microsoft est en train de avait raté le virage depuis du mobile au temps de Windows Phone, mais il est en train de prendre Android, en tout cas sur Windows. Donc, je trouve que c'est une très bonne évolution de Windows là-dessus. Moi, j'en vois plein d'avantages, en tout cas, de prendre, d'utiliser des applications Android, en tout cas sur le PC, ou pour montrer des choses à partir de ton téléphone. Donc voilà. Voilà, c'est la fin. Voilà.
Ça aussi, ça fait bien longtemps qu'on peut le faire avec iOS et macOS.
Mais... Non, ça. Non, vous pouvez pas prendre en main le téléphone. Qu'est-ce que tu racontes ?
Mais là, tu parles de quoi ? Tu parles juste du mirroring du téléphone sur l'écran ?
Non, là, c'est différent. Ça va être plus loin que ça. C'est qu'on va pouvoir en prendre en main le téléphone directement à partir de la souris.
D'accord. Souris, quoi. Voilà. D'accord, mais je vois pas, en fait, l'intérêt.
Eh ben, d'utiliser ton télé, ton
Oui, mais ça veut dire que ton téléphone, il est forcément à côté de ton ordinateur. Donc finalement, tu vas cliquer avec la souris sur les icônes au lieu de cliquer directement sur le téléphone quand tu fais une démo, par exemple.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Quand tu fais une démo, hein, tout à fait.
Ouais, d'accord. Donc,
C'est
ouais,
assez
on
intéressant.
peut discuter quand même. On est d'accord là. On peut se mettre d'accord sur le fait que ça change pas grand-chose. Que tu sois à côté du téléphone à appuyer sur les touches pour montrer en formation ou que tu cliques avec dessus directement. Tu vois ce que je veux dire? Ça change pas la fin du monde, non? Je sais pas.
Moi, je trouve que c'est une bonne avancée, ça va dans le bon sens. Voilà.
Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais je me posais juste la question du fait de pouvoir juste cliquer avec ta souris sur les icônes. Ça changeait vraiment plutôt que d'avoir le téléphone à côté. Mais
Alors, après on peut rêver d'un glisser-déposer. Alors, ça, c'est d'un
Ah oui.
glisser-déposer à partir de Windows directement dessus.
Ah oui, là, je.
Voilà, ils n'ont rien dit là-dessus. Hein.
Oui, parce que ça me paraît impossible. Bon, bref, allez, très bien. Pour
Si, c'est
terminer
possible.
mon. Oui.
Tu vas le tuer.
C'est terrible.
On est en train de le perdre.
On entre, ouais. Allez, moi, je vous parle vite fait. J'aurais deux choses à dire d'abord. Un truc un peu plus light et on va commencer avec ça. Voilà, bah, écoutez, une série que j'ai découverte assez récemment sur Amazon Vidéo. Hein, vous avez l'équivalent de Netflix, mais chez Amazon, du coup. Et ce qui est basé en fait sur tiré en fait d'un personnage assez connu de film qui s'appelle Jack Ryan et qui d'un film en fait il y a eu plusieurs films d'ailleurs
plusieurs acteurs
en secret. Oui, bien sûr, Harrison Ford, Alec Baldwin, pour ne citer que, je crois même qu'il y a eu Ben Affleck.
à
confirmer, voilà,
Non,
par
c'est ça,
un
tu as raison.
écrivain. Donc c'est tiré en fait de livre, hein, enfin d'un univers. Ils appellent ça le Ryanverse, de l'auteur Tom Clancy. Et bah voilà, ils en ont adapté, ils en ont fait une série là qui a commencé fin début septembre, on va dire. J'ai regardé les premiers épisodes et je suis plutôt agréablement surpris. Il faut quand même savoir que ces produits, j'avais un peu peur au début parce que le collègue qui m'avait conseillé m'avait justement dit. que c'était produit par Mike, entre autres par Michael Bay. Donc Michael Bay, vous
Ouais,
connaissez Michael
ouais.
Bay.
Boum, boum, boum.
Voilà, exactement. Hein, c'est le roi de. Il détient le record du nombre d'explosions dans à peu près tous ses films, notamment les Transformers. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis assez. J'aime bien ce genre de truc avec parcimonie, mais ça peut me plaire un petit peu. Mais là, sur une série, je me suis dit, waouh, on va encore retomber sur un truc de nanar. Voilà. Et en fait, pas tellement. Justement, je trouve que c'est plutôt des premiers épisodes que j'ai vus. C'est plutôt juste. Ça casse pas trop. Ça va pas trop chercher trop loin. Bon, ça reste une série, une fiction, mais c'est assez juste. J'ai retrouvé un petit peu ce que j'ai aimé par moment dans 24 aussi, à la grande époque de 24. Bon, ça reste un truc de, pour ceux qui connaîtraient pas, d'espionnage, on va dire, et d'agent secret, quoi. voilà, donc allez voir. Alors bon, c'est sur Amazon, machin. Ça doit se trouver en téléchargement, j'imagine. Ça vaut le coup en tout cas, et surtout, je terminerai dessus, je te laisse la parole. Surtout, vraiment, ce qui est bien, c'est que ça dure 8 épisodes en fait. Et moi, j'apprécie de plus en plus les séries courtes parce que les séries de 24 épisodes, ça commence un peu à me
Ouais,
gaver.
je suis d'accord.
Et là, 8 épisodes, je trouve que c'est le bon 8-10, quoi, c'est le bon format. Voilà.
Moi, je l'ai fini la série, si tu veux savoir.
Ah, ça y est.
Je l'ai fini, je l'ai fini. Alors, très bonne série, j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal, l'acteur, moi, au départ.
Pourquoi? Parce qu'il a un gros nez?
Non, parce que je sais pas, j'ai pas crédible tout de suite sur le personnage.
Eh
J'ai
bien,
pas
figure-toi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant en fait. Parce que
la
justement, il rentrait pas au début dans les codes classiques de l'agent secret, voilà, comme on peut l'imaginer, américain, voilà, à la fois analyste, à la fois bad guy, à la fois gros
Ouais.
musclé. Bon, il y
J'ai
a
eu
un
du
peu
mal hein,
comme
au
ça
départ.
quand même. Ouais. Enfin, c'est pareil, il fait pas mon physique au début. Hein. Quand on le voit la première scène dans le premier épisode où il revient de
Ouais.
l'aviron, où il se change, tu m'excuses, il fait pas 1,72 m et.
Non, 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 mais
Voilà.
je sais pas, c'est l'acteur. J'ai eu un peu de mal au début, après je suis bien rentré dedans, puis l'histoire est prenante. Non, c'est un bon truc d'espionnage, voilà, j'ai bien accroché, je les ai vite regardés. Il y aura une saison 2, hein, forcément, je peux vous le dire, donc voilà.
Alors, il y a quand même dedans un de mes acteurs préférés qui s'appelle Wendell Pierce qui joue son supérieur direct qui a été rétrogradé pour une histoire un peu
Oui,
particulière. Donc, c'est
ouais.
un espèce de black assez
Ouais, tout à
corpulent
fait.
qui a joué dans de grandes séries comme bien évidemment le magnifique The Wire. Si vous ne connaissez pas The Wire, une série des années 90 maintenant, enfin en tout cas fin des années 90 avec plusieurs saisons qui est absolument exceptionnelle, qui se passe justement sur écoute, ça s'appelle en français, qui a joué après dans Trimmy, donc Trimmy, hein, prononcé à la française sur la Nouvelle-Orléans, c'est exceptionnel et ouais, j'adore ce mec et c'est top. Voilà.
Oui, il est très bon, hein. C'est vrai qu'il est très très bon.
Il est vraiment très très bon, ouais, il est vraiment très très bon et puis là, quand même un paquet de références à son actif. J'étais juste en train de voir si je trouvais The Wire la date. Parce que ça me...
Non, c'est une bonne série d'espionnage. Moi qui aime beaucoup tout ce qui est espionnage, c'est une très bonne série d'espionnage.
Ouais, tout à fait. The Wire, voilà. 2002-2008.
Très bien fait, etc.
Voilà. Allez,
on finit là-dessus.
On finit là-dessus.
Allez, les petits crédits comme à la fin. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, même Twitter maintenant, puisque vous nous trouvez sur eTeachersFR, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez, à partir de n'importe quelle application de podcast, nous retrouver, vous tapez eTeachers, vous abonnez et vous ne loupez aucun épisode. Voilà. On a un petit Tipeee aussi. Tipeee, c'est si vous pensez que l'émission mérite quelques euros pour nous aider financièrement à tout ce qui permet de régler tous les frais annexes, en tout cas de l'émission. Vous allez sur tipeee.com/eTeachers. Voilà. Et si on veut nous contacter plus directement, Seb.
Sur Twitter, @stuteur, S-T-U-T-U-R.
Guillaume.
@willowteach, donc W-I-2-L-O underscore teach, T-E-A-C-H.
Voilà, moi c'est @jeff8342. Il y a les vacances qui arrivent, les gars. Donc on se refera pas ça dans 15 jours, à mon avis. Ce sera après les vacances. On est d'accord ?
À voir. Voilà.
À voir.
Pour ce live.
Merci à tous. Au revoir à tous, ciao.
Salut, bonne soirée.